La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin, vous nous avez trouvé une raison d'être un brin chauvin.
Et pourtant, vous pouvez me croire, c'est pas si courant quand on lit la presse internationale. À vrai dire, j'avais repéré l'article du Financial Times dont il va être question dans l'édition de lundi dernier, mais c'est aujourd'hui qu'il prend le plus de relief, vous allez comprendre pourquoi. Cet article, il est titré « La France montre à l'Europe comment il est possible de déconfiner tout en gardant la Covid-19 sous contrôle ». Notre pays, ça ne s'est pas infirmé depuis lundi, fait figure, c'est vrai, de bon exemple de déconfinement qui, pour le moment, n'a pas amené à une hausse inquiétante des cas de contamination détectés. Et pourtant, c'est là que cet exemple français prend toute sa valeur. Ailleurs, autour de nous, les indicateurs sont plutôt en train, il faut bien le dire, de virer à nouveau à l'orange foncé. Ça, c'est ce que nous révèle ce matin The Guardian à Londres. Il a étudié les données épidémiologiques de 45 pays qui ont enregistré plus de 25 000 cas à ce jour. Il a constaté que 21 sur ces 45 pays ont entamé leur déconfinement en allégeant les protocoles sanitaires. Et sur ces 21-là, eh bien 10, selon The Guardian, voient l'épidémie repartir dangereusement à la hausse. Dans ces pays, il y a bien sûr l'Allemagne qui a dû reconfiner plusieurs cantons cette semaine. Il y a aussi Israël qui, d'après les données officielles citées par The Jerusalem Post, voit son nombre de personnes contaminées doubler tous les 8 à 10 jours et parle clairement d'une deuxième vague. Parmi les 10 pays à risque du Guardian, il y a aussi l'Ukraine, les États-Unis bien sûr, la Suisse, l'Iran, la Suède, l'Arabie Saoudite, le Bangladesh ou l'Indonésie. Et il y a, tiens donc, la France avec, nous dit-on, 12% de cas en plus la semaine dernière, comme quoi le bon élève ne serait pas finalement complètement à l'abri.
Et pour poursuivre dans la cartographie du virus, il faut se plonger dans les cartes interactives que publie le New York Times.
Oui, c'est une impressionnante série de cartes animées qui nous donne une visualisation assez passionnante de la manière, comme le dit le titre de ce long article, dont le coronavirus a gagné les États-Unis. On remonte donc aux origines du mal. Chronologiquement, depuis le mois de février, les tout premiers cas en territoire américain, tous ramenés, nous rappelle-t-on, par avion de Chine à Seattle et à New York, les deux extrémités du pays. Comment ces deux souches-là se sont propagées à l'intérieur des États-Unis par les lignes aériennes intérieures? Comment une troisième souche a conquis les États du Sud en utilisant comme véhicule une femme de 67 ans qui a participé au Mardi Gras en Louisiane avant de regagner Memphis, Tennessee. Cette débauche de données épidémiologiques, là encore rendue vivante par les cartes interactives, permet aussi à l'équipe du New York Times de tirer des conclusions sur l'efficacité ou non des politiques publiques qui ont été mises en place par les autorités locales, les confinements décrétés un peu trop tard, facile à dire a posteriori, comme à New York, où l'on nous explique que si les restrictions de déplacement avaient été prises une semaine plus tôt, eh bien on aura pu sauver environ 22 000 vies rien que dans la mégalopole, 36 000 à travers les États-Unis. Mais le New York Times ne se perd pas en reproches, car il a accès à des informations et il le sait qui n'étaient pas disponibles à l'époque, au moment où l'Amérique pensait pouvoir isoler les 15 premiers cas détectés à la mi-février. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y en avait en fait déjà environ 2 000 personnes contaminées, sans qu'on le sache, qui avaient déjà commencé à disséminer la Covid-19. Alors tout ça pour dire que contrairement à ce que semble croire Donald Trump ces derniers jours, l'épidémie est loin d'être sous contrôle aux États-Unis. CNN nous confirme d'ailleurs que les États de Californie, de Floride, du Texas font face à une envolée du nombre de cas détectés ces derniers jours. Le Texas vient d'ailleurs de décréter une pause dans le déconfinement et d'autres se préparent à en faire de même, constatant que le pic de contamination n'est pas encore passé sur une Amérique qui compte pourtant déjà plus de 124 000 morts selon l'implacable compteur du New York Times.
Et c'est vendredi aujourd'hui et le vendredi au Ghana, on ne s'habille pas n'importe comment.
Et non, le vendredi à Accra, capitale du Ghana, on sort les couleurs et les motifs particulièrement reconnaissables, vous le savez sans doute, du wax, ce tissu africain, entre guillemets, on va y revenir, dont le gouvernement ghanéen a fait une sorte d'étendard national dès 2004, quand il a demandé à ses administrés chaque vendredi de s'habiller donc de vêtements en wax pour afficher sa fierté africaine et soutenir l'industrie textile locale. Tout ça, c'est Claire Spencer, journaliste de la BBC Afrique, qui nous l'apprend dans un long et beau reportage aussi plein de vie et de couleurs que son sujet. Son titre nous livre immédiatement la problématique. L'imprimé wax est-il, c'est une question, une fierté africaine ou bien un héritage coloniale. Eh bien, n'en déplaise aux autorités ghanéennes et à ceux qui portent du wax chaque vendredi dans les rues d'Accra et d'ailleurs en Afrique, la réponse est clairement la deuxième. Le wax n'a quasiment rien d'africain, nous dit-on, sinon sa consommation. Il n'est pas né en Afrique, mais aux Pays-Bas, au milieu du 19e siècle, inspiré de techniques ancestrales de tissus cirés et teints, apprises par les colons hollandais, en Indonésie, puis industrialisé dans les usines néerlandaises et lancé sur les marchés africains, où ils ont rencontré, c'est vrai, un grand succès dès la fin du 19e siècle, parce qu'on les trouvait paradoxalement exotiques. Aujourd'hui, ces tissus que s'arrachent les jeunes couturiers d'Afrique et de la diaspora sont produits dans leur grande majorité en Chine, ajoute la BBC, pour parfaire ce tableau mondialisé. Cette histoire, elle est pourtant, c'est vrai, connue. Certains designers ghanéens, d'ailleurs, refusent d'utiliser le wax comme emblème de l'africanité, justement parce qu'ils y voient surtout l'accaparation culturelle globalisée qui caractérise le phénomène colonial. Voilà, chacun en tirera les conclusions qu'il voudra. Faut-il brûler des rouleaux de wax au pied des monuments à la gloire des anciens dirigeants colonisateurs? Je ne me lancerai pas dans ce débat. C'est d'ailleurs pas le sujet du reportage de la BBC Afrique, qui s'en tire, elle, avec un pragmatisme très britannique. Le client est roi, le client africain plébiscite le wax en tant que tissu africain, alors eh bien le wax est un tissu africain. Et bon week-end à tous.
Et bon week-end à vous Camille Magnard. On retrouve cette revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h40.